Radio Kapi.
Le journal Belinda Bosuma.
La situation actuelle à Goma et environ après l'éruption du volcan Nyiragongo le samedi soir, ainsi que les conséquences qui s'en suivent. Tenez, les écoles n'ont pas ouvert ce lundi à Goma sur instruction du gouverneur du Nord Kivu. Problématique de levée des immunités de certains parlementaires. Plusieurs demandes faites par les procureurs généraux près la Cour de cassation et près la Cour constitutionnelle, toujours en attente des réponses. Entre-temps, la justice est accusée de ne rien faire. C'est un dossier que nous propose Jeff Ngoy dans ce journal. Et puis, l'invité de ce midi, Alain Chimbalanga, directeur provincial de l'Office des voiries et drainages OVD Kassai Central, il revient sur le projet Chilejelu qui consiste à assainir et asphalter environ 35 km de la voirie urbaine dans la ville de Kananga. Madame, Messieurs, bonjour. Nous sommes d'abord à Goma. 13 morts, dont 9 dans un accident de circulation et 4 détenus de la prison centrale de Mounzenze tués alors qu'ils voulaient s'évader, mais aussi des dégâts matériels importants. C'est le bilan officiel encore provisoire de l'éruption volcanique de samedi dernier, bilan donné hier à l'issue d'une réunion de sécurité élargie aux humanitaires dont la MONUSCO et l'Observatoire volcanologique de Goma, OVG. Sifamagourou nous en parle.
Cette réunion de crise présidée par le gouverneur militaire, le lieutenant général Constant Dima, avait pour objet de définir les interventions de chaque intervenant, mais aussi les actions urgentes à mener. C'est entre autres l'évaluation de la situation dans les hôpitaux qui ont reçu les malades évacués, la situation dans les zones d'évacuation et la surveillance du volcan. Le porte-parole de cette cellule de crise, le major Ndike Kaiko Guillaume, revient sur quelques mesures prises.
L'évacuation de la population de la zone rouge vers les zones les plus sécurisées en commençant par les personnes les plus vulnérables dont le malade dans les hôpitaux, les femmes enceintes, les vieillards, les personnes handicapées et les enfants. Il a ordonné à la coordination provinciale de la protection civile d'orienter la population en fonction du plan des circonstances et du plan d'évacuation en vigueur. Aux forces armées de la République démocratique du Congo et à la police nationale congolaise d'assurer la sécurité de la ville de Goma et dans les voies d'évacuation afin qu'on évite des cas de vol, des barbaries et d'infiltration pendant l'évacuation.
Les coordonnateurs humanitaires dans la région affirment que les humanitaires poursuivent de leur côté l'évaluation des besoins des personnes affectées directement par l'éruption. Goma, Sifamagourou, Radio Kapi.
Restons Nord Kivu pour signaler que les écoles n'ont pas ouvert ce lundi sur toute l'étendue de la ville de Goma sur instruction du gouverneur de province. Le lieutenant-général Constant Dima a annoncé cette mesure à l'issue de la réunion de la cellule de crise qu'il a présidée hier. Au cours de cette rencontre, le gouverneur et ses partenaires ont arrêté plusieurs autres mesures. Bernard Nyangi nous en fait la synthèse.
Dans un communiqué officiel sanctionnant la fin des travaux de cette réunion, le porte-parole de la cellule de crise indique que le gouverneur de province du Nord Kivu justifie sa mesure par le fait que la ville de Goma et ses environs demeurent dans la phase rouge depuis l'éruption de Nyiragongo, ce qui justifie que les parents ont reçu cette instruction de surveiller leurs enfants pendant cette période. Major Ndike Kaiko.
Suite à l'éruption du volcan Nyiragongo, son Excellence, Monsieur le gouverneur du Nord Kivu, porte à la connaissance de la population que nous sommes encore dans la phase rouge qui conditionne l'application des mesures définies dans le plan de contingence. Au regard des tremblements de terre qui s'amplifient davantage, il est demandé aux parents d'élèves de ne pas envoyer leurs enfants à l'école jusqu'à nouvel ordre.
Rappelons que depuis le jour de l'éruption samedi soir, de nombreux enfants restaient encore séparés de leurs parents. La cellule provinciale de crise, à l'issue de cette même réunion, a lancé une évaluation permanente des mouvements de population dont les rapports devraient être centralisés et partagés avec tous les membres. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Par ailleurs, certaines personnes sont encore interdites de regagner leurs habitations, en l'occurrence celles des zones rouges susceptibles de subir des répercussions des mouvements sismiques du fait de l'activité au niveau du volcan. C'est l'une des décisions des autorités du Nord Kivu répercutée par le porte-parole du gouvernement congolais lors du point de presse tenu hier à Kinshasa. Patrick Muyaya a par ailleurs présenté une batterie d'autres mesures que nous résume ici Billy Van Lutumba.
C'est entre autres une instruction aux autorités de l'Observatoire volcanologique de Goma de poursuivre la surveillance de la coulée de lave et faire parvenir, le cas échéant, l'alerte au niveau central et aux autorités de la province de l'Ouest en République du Rwanda.
L'autorisation d'évacuation de la population de la zone rouge vers les zones sécurisées, en commençant par les personnes les plus vulnérables. L'ordre donné à la coordination provinciale de la protection civile d'orienter la population en fonction du plan de circonstances et du plan d'évacuation en vigueur. L'ordre donné aux forces armées de la République démocratique du Congo et à la police nationale congolaise d'assurer la sécurité dans la ville de Goma et dans les voies d'évacuation afin d'éviter des cas de vol, de barbarie et d'infiltration pendant cette évacuation.
Par ailleurs, dès ce lundi, le pouvoir de Kinshasa ainsi que le gouvernement provincial entendent mettre urgemment le cap sur 5 axes, notamment l'évaluation de la situation humanitaire dans les hôpitaux, dans les voies vers les zones d'évacuation, la poursuite de la surveillance du volcan et le maintien de la sécurité et la centralisation de toutes les informations sur le terrain par la coordination provinciale de la société civile. Le gouvernement tient en outre à rassurer tous les Nord-Kivusiens en termes d'appui nécessaire face à cette catastrophe et met à disposition du public un numéro vert, le 140.
Entre-temps, le trafic Goma-Rutshuru-Butembo sur la nationale numéro 2 reste coupé depuis samedi soir, situation consécutive où lave du volcan Nyiragongo qui coulait vers le Rwanda et qui ont coupé la route sur une étendue d'environ 1200 mètres au niveau de Kibati dans le territoire de Nyiragongo. Conséquence, plusieurs camions transportant des marchandises diverses et passagers en direction de Goma restent bloqués dans les territoires de Rutshuru et de Nyiragongo. Reportage de Sifa Maguru rendu par Denise Lukeso.
La société civile de Rutshuru déplore cette situation dont les conséquences se font déjà sentir. Plusieurs véhicules en provenance de Bunagana à la frontière avec l'Ouganda se sont arrêtés depuis samedi au niveau de Rubare, tandis que d'autres qui venaient de Butembo sont déjà à Kiwanja, Kirumba et Kibumba. Selon la société civile, certains passagers prennent les risques de traverser la lave volcanique à pied pour atteindre Goma. D'après l'association des propriétaires de véhicules basés à Kiwanja, un grand nombre de marchandises, essentiellement des vivres et produits de première nécessité, sont bloqués dans les véhicules et certains produits agricoles commencent à se dégrader. Le responsable de cette association ajoute que les pertes sont incalculables pour les transporteurs, tout comme les commerçants. Cette situation va provoquer la rareté des produits sur les marchés et la population ne va tarder à les sentir, a-t-il déclaré. Goma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Les effets de l'éruption volcanique de Nyiragongo se font également sentir dans la province voisine du Sud Kivu. L'aéroport de Kavumu est aussi concerné par la mesure conservatoire du ministre des Transports et Voies de Communication. Une décision qui tombe au moment où un plaidoyer est en cours pour que l'aéroport de Kavumu soit vite modernisé pour servir de secours en cas de problème à Goma et ailleurs. Emmanuel Elameji nous en dit plus.
La nouvelle est confirmée à Radio Kapi par la direction provinciale de la RVA Sud Kivu. L'aéroport de Kavumu restera fermé jusqu'à nouvel ordre et pendant au moins 30 jours. Décision du ministre des Transports et Voies des Communications pour prévenir tous les dangers inhérents à une éruption volcanique. Pendant ces temps, le député national élu de Walungu plaide toujours pour la modernisation de l'aéroport de Kavumu, qui devra, selon lui, servir de secours aux autres aéroports de la région. Olive Mudekereza Namegabe salue tout de même la mesure de fermeture provisoire en cours.
Dans la région de Grand Lac, il y a seul l'aéroport de Kavumu qui n'a pas été modernisé. Donc Kavumu mérite une attention particulière afin de recevoir les gros, les grands porteurs. Et ça sera encore un aéroport de secours. Donc l'aéroport de Kavumu est stratégique et important dans la région. Il faut la reconstruire.
Signalons que Bukavu et Goma sont parmi les deux chefs-lieux des provinces les plus proches de la RDC. Un avion relie les deux villes en moins de 15 minutes. En dehors des appareils des Nations Unies, l'aéroport de Kavumu reçoit les vols commerciaux de la CAA ainsi que des petits appareils qui relient les territoires. Emmanuel Elamejou Akabedi, Bukavu Radio Kapi.
Je vous le disais en titre, plusieurs demandes faites par les procureurs généraux près la Cour de cassation et près la Cour constitutionnelle sur la levée des immunités de certains parlementaires attendent toujours des réponses ou des suites favorables et la justice est souvent accusée de ne rien faire alors que son action se trouve butée à la problématique que la levée des immunités dont bénéficient certains responsables comme des parlementaires dont les poursuites ne sont pas automatiques. Suivant ces analyses faites par certaines personnalités de la magistrature, du parlement et des avocats dans ce dossier que nous propose Jeff Ngoy.
Certaines fonctions nécessitent la protection de ceux qui les exercent. Et ces immunités ne sont pas synonymes de l'impunité, vu la gravité des faits. Après analyse des circonstances, on peut ordonner que l'immunité soit levée et que la personne soit poursuivie.
Après cette analyse d'un magistrat, Nicolas Kidishimba, écoutons à présent la députée Nelly Mwinga.
Un parlementaire peut être poursuivi, mais toute mesure coercitive nécessite la main levée de son immunité par ce père. Il ne faut pas confondre immunité à impunité. De toute façon, ça fonctionne tellement bien jusqu'à présent, puisqu'on a eu des parlementaires qui ont été condamnés après que leurs immunités aient été levées.
Le point de vue d'un avocat, Maître Peter Ngoma.
Dès lors que la justice vous dit que nous avons besoin de tel, puisqu'il appartient à votre assemblée au niveau du Sénat, mais vous les livrez.
Mais je demanderai même au PG, puisque l'on est le cas, on n'a qu'à attendre la fin du mandat, les jours ça va finir, le lendemain il faut envoyer autant de mandats d'amener. Il faut rattraper tout ce monde-là.
Dans les années passées, sur 98 réquisitions introduites par le parquet général au Parlement pour lever certaines immunités, 7 seulement ont reçu une suite. Ce qu'a déploré le premier président de la Cour de cassation lors de la dernière rentrée judiciaire.
Dans l'actualité aussi, la clôture samedi à Kinshasa des journées sociales du Centre d'études pour l'action sociale, édition 2021. À cette occasion, un des panélistes de ces assises, le professeur Mukoko Samba, a plaidé pour la création d'un compte d'affectation spécial pour financer les élections dans le temps à RDC. Selon cet ancien ministre du budget, cette proposition a été mise sur la place publique par le G13 dans le souci d'assurer de façon régulière le financement des dépenses liées à la préparation et à l'organisation des élections. Les propos du professeur Mukoko Samba recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Les comptes d'affectation spéciale sont prévus dans la loi relative aux finances publiques. Cette loi qui a été promulguée en 2011, mais nous n'avons pas encore fait usage de ces outils que la loi met à la disposition des autorités pour régler un certain nombre de problèmes. Les élections ont des cycles réguliers. Les échéances sont connues à l'avance et tous les 5 ans. Les élections ont un coût qui est à la fois courant parce que la centrale électorale doit continuer à travailler même après l'organisation des scrutins. C'est une idée qui a été mise sur la place publique par le G13, le groupe auquel j'appartiens, et nous continuons à mener ce plaidoyer que ce compte soit créé.
Donc une idée qui va permettre la régularité des élections en RDC.
La régularité du financement de la centrale électorale, c'est-à-dire de la CENI, un meilleur suivi des ressources qui sont mises à la disposition de la CENI, pour éviter que à la veille des élections, on ne fasse supporter le coût de l'organisation des élections par un seul exercice budgétaire, ce qui généralement pèse énormément. La garantie d'une bonne organisation des élections, c'est d'abord une bonne préparation et la préparation doit se faire dans le temps.
Notez que ces journées sociales ont été organisées autour du thème « Consolider la démocratie et promouvoir l'état des droits en RDC ». Rendons-nous à Inongo, chef-lieu de la province du Maïndombe. L'ONG CONAFED, Comité National des Femmes et Développement, a organisé hier une journée de sensibilisation à l'intention de 40 jeunes femmes. Objectif, contribuer à la promotion du leadership féminin dans le domaine politique, culturel, social et économique des jeunes femmes dans l'espace Maïndombe. Le compte-rendu de Irène Boma.
Cet atelier cadre avec la préparation de la relève par les jeunes femmes qui sont appelées à assumer de grandes responsabilités dans leur milieu de vie respectif, à l'heure où le monde milite pour la génération égalité, a indiqué Dadji Efambeka, le facilitateur. Il pense qu'on ne peut pas accéder au poste de prise de décision quand on n'est pas leader.
On ne peut pas entrer dans les espaces de prise de décision quand on ne devient pas leader. On ne peut pas être élu quand on n'est pas leader. La raison pour laquelle nous sommes réunis dans cette salle pour sensibiliser davantage les femmes, que celles-ci comprennent le sens de leur combat. Les objectifs ne seront jamais atteints si elles n'ajoutent pas cette qualité ici qui est le leadership.
De son côté, la présidente du comité local Gère et Développement de la commune d'Impolo Maurice, qui affirme que le leadership féminin est trop faible au Maïndombe, appelle les femmes à se mobiliser.
Il y a les élections qui s'approchent. Il faut que ces femmes-là soient vraiment mobilisées, de s'intégrer dans des partis politiques, que le postule aussi, afin que nous puissions aussi occuper des postes de prise de décision.
Notez que 40 femmes ont pris part à cette journée de sensibilisation qui s'est déroulée dans la salle polyvalente de l'Institut supérieur des sciences de santé du Nongo, ISES en sigle. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Actualité internationale. Nous sommes au Mozambique. Il y a 2 mois, la ville de Palma, dans l'extrême nord du pays, a été la cible des djihadistes. Une attaque de grande ampleur qui a provoqué l'exil de plus de 50 000 personnes dans la province du Cabo Delgado. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, la province est désormais sous le contrôle de l'armée. Mais 2 mois plus tard, les associations humanitaires s'inquiètent d'un afflux toujours plus important des déplacés qui sont les premières victimes de l'insécurité alimentaire, notamment les enfants. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, s'est réunie toute la semaine à partir d'aujourd'hui. Une assemblée largement consacrée à la pandémie de COVID-19, mais également à la réforme de l'OMS. À l'échelle mondiale, la campagne de vaccination est toujours aussi inégalitaire. Les 3/4 des vaccins administrés dans le monde ne l'ont été que dans 10 pays. Cette assemblée mondiale de la santé devrait donc largement être consacrée à la question du partage des doses produites afin de mieux lutter contre le coronavirus.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons le directeur provincial de l'Office des voiries et drainages OVD Kassai Central, Alain Chimbalanga, revient sur le projet Chilegelu qui consiste à l'assainissement et l'asphaltage d'environ 35 km de la voirie urbaine dans la ville de Kananga. Où en est-on avec ces travaux lancés en mars dernier et dont l'entreprise chinoise Grec 7 est attributaire et l'OVD maître d'ouvrage délégué? Alain Chimbalanga s'entretient à ce sujet avec François Kadima.
Monsieur Alain Chimbalanga, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Voilà, le projet Chilegelu a été lancé depuis le mois de mars. Alors, jusqu'à ces jours, plusieurs personnes se demandent. Les travaux n'ont pas encore commencé. Qu'est-ce qui bloque?
Je crois que rien ne bloque. Hein. L'entreprise a une période de mobilisation, selon le marché. La période est de 2 mois. Et pendant ce temps-là, l'entreprise aussi n'est pas restée bras croisés, attendre l'arrivée de son équipement et de matériaux. L'entreprise travaille sur l'avenir évolution dans la commune de Katoka jusque-là. Et hier, l'entreprise était à Ndécha, en train de travailler. Je crois que tout va bien.
Quand vous dites l'entreprise était en train de travailler en Ndécha, en train de faire quoi?
En fait, l'entreprise est censée d'abord, dans un premier temps, assurer les écoulements des eaux. Et pour que les eaux puissent être bien canalisées, il faut avoir les systèmes de drainage. Donc jusque-là, l'entreprise est en train de faire la fouille pour les caniveaux. Et au même moment, il est en train de mettre le radier, donc le béton en dessous de la fouille, et construire les parois de maçonnerie en bloc plein.
Dans l'exécution de travaux, il y a l'OVD et Grec 7. Qui est qui et qui fait quoi et comment?
Bon, il convient de signaler que l'OVD est le maître d'ouvrage délégué. La maîtrise d'ouvrage est réservée au ministère des Infrastructures, qui a en fait délégué ce pouvoir-là à l'entreprise qui est le nôtre, à l'OVD, qui est gestionnaire, au fait, de la voirie. Et nous avons, dans cette mission, nous avons encore une autre mission, celle de surveillance. L'OVD assure la surveillance. Et à côté, nous avons un bureau de contrôle pour contrôler la qualité des travaux, qui est Techniplan. Et l'entreprise, Grec 7, c'est l'entreprise attributaire, comme on dit.
Alors, dans la faisabilité, Chilegelu, donnez-nous un peu les lignes qui sont concernées par les travaux.
Oui, nous avons d'abord signalé que Chilegelu, c'est pour 36 mois. 36 mois, c'est 3 ans. Et on va faire 35 kilomètres de route. Nous avons la route Nganza Chikaji, l'avenue Docteur Tshisekedi, la route Tambo Saint-Bernard, l'avenue Kamwandu, l'avenue de la Révolution 1, qui part de Katoka jusqu'au niveau d'Ndécha, c'est 4 180 km. Révolution 2, qui part d'Ndécha jusqu'à Lukonga, c'est 2,364 km. Nous avons en ville l'avenue de la Mission, qui part de Rompon et Mokassa jusqu'au niveau du lycée Buenamuntu. Nous avons l'avenue de l'hôpital, qui part de lycée Buenamuntu jusqu'à l'hôpital général. L'avenue Bagira, qui part de l'hôpital jusqu'à Sangabantu. L'avenue Dispensaire, qui sera réhabilitée de rond-point de l'école Sangabantu jusqu'à l'avenue Tshisekedi, qu'on appelle Commerce. L'avenue Kassavubu, sur toute sa longueur. L'avenue Goma, avec ses doubles voies, l'avenue Walikale, qui sera pris aussi sur toute sa longueur, 0,238 km. L'avenue ou le boulevard Mukenge-Chabantou dans ce double voie. La route EFO sur toute sa longueur, 2,370. Route ICA combinée, ça nous fait à peu près 3,876 km. Voilà un total de 35 km qui doivent être exécutés pendant ces trois ans.
Parlons du coût des travaux. C'est vrai que vous avez été dernièrement invité à l'Assemblée provinciale. Il y a un problème entre l'OVD et Grexet par rapport au financement de ces travaux ou l'exécution. Qu'est-ce qui se passe réellement?
En fait, l'entreprise est allée demander auprès d'une banque, solliciter une ligne de crédit. L'entreprise a eu cette ligne de crédit.
Grexet, bien sûr.
Grexet, bien sûr. Alors, le gouvernement congolais assure le remboursement au travers de FONER sur ce qui revient à l'OVD, parce que FONER travaille avec l'OVD pour l'entretien des routes. C'est comme ça que pour le Grand Kassai, je dis bien pour le Grand Kassai, le contrat a conclu 96 943 000 $, toutes taxes compris, pour tous les Grands Kassai. Et que dans ces montants, il y a le frais de travaux qui s'élève à 76 871 000 $ pour tous les grands Kassai. Ça, ce n'est pas pour la ville de Kananga. Nous avons les frais des études, contrôle et surveillance, et nous avons aussi la TVA. Voilà à peu près les gros. Ce n'est pas dire que l'entreprise a volé l'argent à gauche, à droite. Non, non. L'entreprise est allée prendre un crédit au niveau de la banque et nous assurons le remboursement pendant à peu près 6 ans. Donc, les travaux vont continuer et les travaux prendront une autre dimension d'ici là.
Monsieur Alain Timbalang, à nouveau, disons merci.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
Le directeur provincial de l'OVD Kassai Central répondait aux questions de François Kadima. C'est la fin de ce journal, supervisé par Alain Rungmouchin, coordination d'Élisée Chikotati Vueta, à la technique Mimi Kindoué devant ce micro, Belinda Bosuma. Vous pouvez réécouter ce journal sur notre site www.radiocapi.net. L'actualité continue sur toutes les plateformes numériques de Radio Capi. Merci de nous rester fidèles.